Bonsoir, ici Dieudonné Oumba pour La Voix du Palais, votre programme consacré aux activités et à l'action du président de la République. Climat sociopolitique au Cameroun, situation sous contrôle. Sur les hautes directives du président de la République, les gouverneurs de région en ont fait récemment l'état des lieux, autant qu'ils ont reçu des prescriptions du sommet de l'État. Échéance à venir, chorus pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Le gouverneur de la région de l'Adamawa et l'archevêque métropolitain de Yaoundé se prononcent ce soir sur cette tribune. Nous les avons invités. D'abord, l'actualité venue fraîchement du Palais de l'Unité. Le président Paul Biya a signé le 10 juillet dernier différents textes. Le décret portant nomination des présidents de conseils d'administration dans certaines universités d'État. Ainsi, M. Twente Maurice a été porté à la tête du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. M. Salé Charles à la tête de celui de l'université de Bertois et Mme Menge Zomo Ne Ntiamondo Suzanne comme président du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 2. Le président Paul Biya a également nommé des responsables à d'autres degrés auprès de certaines universités d'État. Le chef de l'État, le président Paul Biya, a par ailleurs signé le même 10 juillet 2024 le décret portant approbation des statuts de la Société nationale d'investissement ainsi que le texte portant transformation de la Société nationale d'investissement, la SNI, en société à capital public. Toujours au Palais de l'Unité, le magazine Le Temps des Opportunités est en kiosque. L'image de la une, comme celle de la quatrième de couverture, montrant la première dame camerounaise avec la nouvelle Miss Cameroun, donne tout simplement envie de découvrir le contenu du tout nouveau numéro de Le Temps des Opportunités. La nouvelle sortie du TDO fait la part belle à la célébration du 20 mai et à l'abondante activité de l'épouse du chef de l'État. Le ministre Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, bâtit déjà son éditorial sur la 52e édition de la Fête de l'Unité. Le titre de l'édito, ferveur patriotique ravivée pour l'unité nationale, en dit long sur la communion observée entre les Camerounais et le couple présidentiel, le 20 mai dernier, apothéose de la célébration. L'éditorialiste rappelle enfin que l'unité nationale est un acquis à consolider, entre autres en exaltant tout ce qui concourt à la force du Cameroun. Et cette force se verra à travers les images. Celle du président Paul Biya à l'arrivée au boulevard du 20 mai, à l'exécution de l'hymne national, à la revue des troupes ou au passage de celles-ci. Troupes militaires à pied ou lors du défilé motorisé, sans oublier les groupes civils, jeunes et moins jeunes, membres d'associations politiques ou non, sous le regard du chef de l'État, de la première dame et de nombreuses personnalités. Même communion à la réception au Palais de l'Unité, où l'image reflète l'allégresse exprimée devant Paul et Chantal Biya, très détendue. Devant cette ferveur patriotique, le numéro 78 de l'OTAN des opportunités n'a pas oublié un autre événement qui aura marqué le Cameroun et le monde. Le 8 juin 1990, Paul Biya était à la tribune au stade San Siro de Milan en Italie. Motif, ouverture de la 14e édition de la Coupe du Monde de football. Et le Cameroun prit le dessus sur l'Argentine de Diego Armando Maradona. Ça fait 34 ans, mais ça ne fait pas autant d'années qu'existe PRC TV. À la dernière fête de l'Unité, la télé du Palais était au cœur de l'événement. Différentes thématiques abordées par des journalistes et analystes chevronnés. La nouvelle sortie du TDO rappelle ces différents axes où le président Paul Biya apparaît comme un acteur clé. À ses côtés, Mme Chantal Biya, dont l'activité aura été débordante ces trois derniers mois. Le deuxième gala de charité organisé par l'Ordre souverain de Malte pour financer la lutte contre les maladies infantiles, la remise des cadeaux aux élèves du complexe Les Coccinelles du Palais de l'Unité, ou alors la présence de la première dame camerounaise à la cérémonie de Miss Cameroun. Une présence constante qui signifie l'attachement de l'épouse du président de la République, non seulement à la beauté, mais également à l'humain et à la culture. Aucune actualité n'aura échappé au nouveau TDO, même pas cette cérémonie de baptême dans la famille présidentielle. des faits, des gestes, des actes présidentiels aussi. L'OTAN des opportunités d'avril-juin 2024 dénombre 145 actes signés du président Paul Biya. Les 116 pages du magazine pèsent bien de leur poids des mots et des images. Climat sociopolitique de l'heure et en prélude aux prochaines échéances, l'État tient le bon bout. Autant le Parlement, lors de sa dernière session, a appelé à l'apaisement et à l'éradication des discours haineux, autant le gouvernement de la République met tout en œuvre afin que l'ordre règne sous la haute impulsion du président de la République. À la dernière conférence semestrielle des gouverneurs de région tenue ici à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, a fait ce rappel. Morceau choisi.
C'est bien son Excellence Paul Biya qui est l'artisan d'un grand Cameroun libre, démocratique, uni, paisible et prospère. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a lui-même dit plusieurs fois que le processus démocratique est désormais irréversible. La démocratie et les libertés publiques accordées volontairement par le chef de l'État doivent être utilisées rationnellement. Dans un pays aussi libre que le Cameroun, nous devons utiliser nos intelligences pour construire et non pour détruire. Le grand défi des autorités administratives, c'est d'abord de préserver les acquis de la nation contre vents et marées. Les acteurs politiques et sociaux doivent mener leurs activités dans le strict respect des lois de la République. Dans le domaine de maintien de l'ordre, l'autorité administrative doit être un pédagogue, un conseiller, mais elle doit aussi faire preuve de fermeté face à ceux qui ont pour sport favori de défier l'autorité de l'État.
Devant nous ce soir, deux personnalités, une de la préfectorale et l'autre de l'église, autorité morale. D'abord, le gouverneur de la région de l'Adamawa, M. Kildadi Tagyeke Boukar. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Bonsoir, M. Omba.
Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir encore à cette tribune La Voix du Palais, qui est une émission, un programme consacré aux activités et à l'action du président de la République. En ce moment précis, monsieur le gouverneur, comment se porte la région de l'Adamawa?
La région de l'Adamawa se porte relativement bien. L'état d'esprit est positif à cause des actions des pouvoirs publics qui sont faites au profit de nos populations. Et cette population démontre une résilience constante et engage des actions importantes. Actions de création des richesses, actions allant dans le sens de la croissance économique certaine. L'état d'esprit de cette population donc est également positif parce que les pouvoirs publics satisfont les demandes de la population, notamment en eau et en énergie, et quelques projets d'ordre social, notamment la route qui est en train de se faire, des barrages qui sont au point d'être créés.
Barrage de Birni-Awarak.
De Birni-Awarak. Et nous avons également d'autres prestations de l'État qui sont importantes pour ces populations.
Et quid alors de la sécurité, puisque effectivement c'est ça qui était également à l'ordre du jour, voilà, lors de cette conférence de gouverneurs, le maintien de l'ordre en période préélectorale. On sait que c'est très délicat, souvent.
Ouais. Faut-il le rappeler, parce que la sécurité est une préoccupation permanente des autorités administratives. Mais il arrive des moments où cette sécurité a besoin d'être renforcée. Et justement, avec l'avènement de prochaines élections, nous prenons des mesures pour que cette sécurité soit renforcée, qu'elle soit garantie, parce que nous savons les enjeux que revêtent les élections dans un pays comme le Cameroun. Les enjeux sont divers et il nous incombe de tout mettre en œuvre pour que ces enjeux ne conduisent pas à des actes de banditisme, à des actes de rébellion, à des actes de mise en péril de l'ordre public. Et nous faisons tout pour que le concept armée-nation soit traduit dans les faits si d'aventure l'ordre public est perturbé, soit par les actes de banditisme, soit par les prises d'otages, soit par la coupure de route. Donc nous faisons de la sécurité notre cheval de bataille. Qui plus est, en période électorale, cet enjeu sécuritaire doit monter d'un cran et nous nous organisons avec les forces de l'ordre, avec le comité de vigilance, avec les forces traditionnelles pour parer au plus pressant le moment venu.
Est-ce que vous dites également, comme le ministre de l'administration territoriale a dit à la clôture de ses travaux, que la situation de manière globale est sous contrôle ?
Elle est sous contrôle, notamment en ce qui concerne la région de la Damawa. Voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure que nos populations vont à leurs occupations sans difficulté. Les services de l'État fonctionnent normalement. Les marchés sont ouverts. Les établissements scolaires sont également ouverts. L'université donne les cours. Et la circulation des biens et des personnes est évidente. Ce qui nous conduit donc à dire sans embâche que la situation est sous contrôle.
Alors, les élections, ça parle aussi des acteurs politiques, c'est-à-dire des formations politiques ou leurs états-majors en présence.
Ouais.
Est-ce que l'effervescence qu'on annonce partout au Cameroun est également vivante et vivable dans la région ?
Bien sûr. Vous avez la région de la Damawa. C'est une région où les partis politiques se sont exprimés depuis l'avènement du multipartisme. Et il y a eu des forces d'opposition qui ont damé le pion aux autres partis et qui exercent donc les responsabilités au niveau de notre région. Alors, cela veut dire qu'il y a un enjeu certain quand il s'agit des élections nationales ou des élections locales, particulièrement au niveau de la région de la Damawa. Il faut le dire, les exécutifs communaux aujourd'hui, en l'occurrence la mairie de ville, et le conseil régional sont détenus par un parti d'opposition. Et comme tel, le parti proche du pouvoir doit également reconquérir ces unités.
Alors, est-ce que ça ne donne pas lieu à des joutes ou
justement, non, c'est des joutes âpres qui sont observées dans la région, plus là-bas qu'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment de la bataille pour reconquérir les sièges à l'Assemblée nationale ou au conseil régional ou dans les conseils municipaux.
Est-ce que ça va jusqu'aux surenchères,
absolument,
jusqu'au discours haineux ?
Oui, oui, cela s'emballe de temps en temps. Mais nous sommes là pour rappeler aux uns aux autres que le jeu doit être républicain et que les discours haineux ou la propagation des clichés ou des stéréotypes qui sont de nature à diviser les Camerounais, qui sont de nature à mettre notre vivre ensemble en péril, ces discours, ces clichés, ces stéréotypes doivent être combattus avec la dernière énergie.
Donc, en un mot, comment est-ce que vous préparez ces importantes échéances ? On parle de 2025.
Bien, nous sommes conscients que 2025 est loin, mais si proche aussi. Alors, nous disons que, comme à notre habitude, nous devons anticiper sur ce qui peut se passer. Et le ministre nous a conviés à le faire. Nous devons renforcer les mesures traditionnelles, notamment le maillage de notre territoire par les forces et les comités de vigilance. Nous devons sensibiliser toutes les parties prenantes pour que le jeu soit sain et républicain. Nous allons mettre ensemble nos stratégies pour que les échéances à venir soient une réussite totale.
On sait que la région de la Damawa a des différents pays qui partagent la lisière, donc la RCA, le Nigeria, il y a même le Tchad. Et c'est également au niveau national une zone de transit ou alors une zone carrefour.
Ouais.
Comment faire pour justement contenir tous ces aléas, étant donné que le grand banditisme guette ?
Nous sommes conscients de la configuration géographique de notre région.
Vous l'avez dit, c'est un carrefour
et qui partage des limites de frontières longues et poreuses avec plusieurs pays, notamment le Nigeria à l'ouest, la Centrafrique à l'est et le Tchad au nord-est. Donc, le jeu sécuritaire est très important. Et conscient donc de cet état des choses, nous veillons au grain en maillant toutes les zones à risque. Nous prenons des actions fortes pour que nos frontières soient bien tenues et que cette porosité ne soit pas un handicap sérieux Nous nous déployons donc à ces frontières. Heureusement pour nous, nos forces sont stationnées à l'est comme à l'ouest. Et tout ce qui peut conduire à déstabiliser notre territoire est circonscrit et mis sous contrôle.
Cela est valable, par exemple, pour l'entrée frauduleuse des médicaments ou alors des articles interdits.
Oui, la nature de porosité de nos frontières permet que les contrebandes de toutes sortes soient observables à ces niveaux. Et dans la contrebande, nous notons la contrebande des produits pétroliers, nous notons l'entrée des drogues légères et fortes également. Et nous avons donc créé des points de contrôle mixtes, gendarmerie, police et quelquefois douane, qui quadrillent le terrain. Et nous saisissons donc quotidiennement ces différents produits qui viennent inonder notre tissu économique. Donc nous sommes véritablement préoccupés et Dieu merci, avec notre sens d'anticipation et notre réseau d'information nous permettent de circonscrire cette contrebande.
Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment qu'ils écoutent La Voix du Palais, c'est le programme réservé aux activités et à l'action du président de la République. Et parmi ces activités et dans le cadre de l'action présidentielle, il y a cette distinction qui vous avait été faite tout récemment, à savoir le sacre de la médaille de vaillance avec citation de la nation. Décidé par le chef de l'État, le président Paul Biya. Voilà. Pour vous, c'est un accomplissement, monsieur le gouverneur?
Oui, mais quel honneur, quel bonheur. Et je crois que le président de la République s'est récompensé. C'est préposé que nous sommes. Nous sommes extrêmement touchés par cet acte plein de gloriole, de bonheur. Nous avons été choisis pour obtenir cette médaille qu'on appelle médaille de la vaillance avec citation à l'ordre de la nation.
Alors je dois rappeler que vous avez été distingué, vous, 5 gouverneurs choisis dans les zones, on pourrait dire, difficiles. La Damawa, le Nord, l'extrême Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
Oui, nous sommes 5 effectivement. Je crois qu'on a vu juste de choisir responsable administratif de ces différentes localités, parce que quelquefois l'ordre public est mis en péril et qu'on enregistre quelques actes regrettables, notamment les prises d'otages que nous avons évoquées tout à l'heure, la contrebande de toutes sortes et la coupure de route. Donc nous avons tenu le pari de contenir ces différentes déferlantes qui étaient de nature à saper notre tranquillité, notre organisation socio-économique. Et je crois que cette médaille est bienvenue et cela constitue une invite à plus d'efforts, à plus de travail, à plus de loyauté et de fidélité, non seulement aux institutions de la République, mais à celui qui les incarne. Si heureusement, j'ai nommé son excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun.
Monsieur le gouverneur, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Omba.
Voici à présent la voix de l'Église, la voix de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé.
Monseigneur Jean Barga, bonsoir.
Bonsoir.
C'est pas tous les soirs que nous vous avons comme invité et on en est très honoré. Ce soir, on vous reçoit dans le cadre de cette émission, la voix du palais consacrée aux activités et à l'action du président de la République. Bienvenue.
Merci.
Déjà, comment se porte le diocèse ou alors l'archidiocèse de Yaoundé en ce moment?
L'archidiocèse de Yaoundé se porte bien. Nous sommes dans une année dite l'année de la prière, quand nous préparons joyeusement le jubilé, l'année sainte 2025. C'est très important pour toute l'humanité et particulièrement pour nous. Dans ce cadre-là, nous avons eu l'option de commencer le renouvellement des esprits, des engagements et des cœurs. Nous voyons venir un avenir qui va nous interpeller sur plusieurs fronts. Et il faut que les pasteurs, les fidèles soient disposés à être ouverts à l'homme dans sa dimension la plus variée et principalement la dimension spirituelle. Le besoin de spiritualité à Yaoundé est de plus en plus très fort. Et j'invite mes collaborateurs, mes prêtres, à approfondir cette question, à ne pas faire dans la superficialité et à développer des formes d'accompagnement qui valorise l'intériorité, la démarche personnelle, la rencontre avec Dieu, la conversion. Car les chrétiens, surtout catholiques, que nous représentons, doivent être des signes que nous appelons des sacrements du Christ au milieu du peuple. Et c'est ça le grand défi aujourd'hui. Donc, je participe de ceux qui soutiennent le mouvement de synodalité qui va permettre que le laïcat vraiment s'engage dans la vie de l'Église. Qu'on ne réduise pas l'Église aux prêtres ou aux religieux, religieuses, mais que le grand peuple de Dieu devienne acteur en tous les niveaux, dans l'enseignement, dans la sanctification et dans le gouvernement de l'Église.
On va y revenir tout à l'heure, Monseigneur, mais est-ce que déjà, puisque nous parlons de l'Église avec son laïcat, vous avez quand même quelques bruits, des soubresauts au niveau social, au niveau de l'entourage, avec l'actualité du moment?
Je peux dire que je fais campagne spirituelle dans le domaine l'engagement des laïcs dans le temporel. Parce que le laïc est un chrétien baptisé, mais qui a une spécificité dans l'Église. Il est au service du renouvellement du temporel. Le temporel, c'est quoi? C'est la vie de tous les jours, c'est la vie politique, la vie économique, l'ingénierie, tous ces domaines qui couvrent le monde. Parce qu'il est envoyé au nom du Christ dans le monde pour être sel de la terre, lumière du monde et levain dans la pâte. Donc pour nous, en ce moment, les chrétiens catholiques laïcs associés à l'œcuménisme et au dialogue interreligieux doivent être lumière du monde, sel de la terre et levain dans la pâte.
Est-ce que cela justifie donc l'appel que vous avez lancé ces derniers temps avec les condamnations, les critiques sur le plan moral tout au moins qui concernent toute votre église particulière en ce qui concerne les mœurs?
La vérité, c'est que la conversion est le maître mot de l'évangile. Et nous avons mission de réactiver. Il n'y a pas eu de période dans l'histoire de l'Église où les gens étaient si bas en sainteté complète. Donc, nous sommes des missionnaires qui rappellent la conversion. Purifiez-vous, convertissez-vous, changez de vie, mettez de l'ordre dans votre vie, disposez-vous à accueillir la bonne nouvelle. Bref, à être plus chrétien chaque jour dans un perfectionnement continu. Donc, à tout moment, on crée le choc. J'allais dire évangélique, pour dire aux gens, surtout ne dormez pas, ne vous enlisez pas, acceptez les critiques et renoncez à faire le mal, à suivre des voies qui ne plaisent pas au Seigneur, parce que la voie du Seigneur, c'est la voie de la vie. Voilà pourquoi la conversion n'est pas une sanction. L'appel à la conversion, l'appel à la paix, c'est l'appel à la plénitude de l'homme dans son parcours terrestre.
Alors l'Église de tout temps a toujours été avec le monde mondain, si vous permettez cette répétition, et même dans les documents conciliaires Vatican II, généralement, on gère le monde de ce temps, comme vous dites très souvent là-bas. Est-ce que, avec les échéances qui arrivent, l'Église a un mot à dire? Si oui, c'est lequel?
La vie de la nation est une réalité dynamique qui a ses phases, ses variations et ses évolutions. La vigilance prophétique qui est propre à l'Église consiste à pouvoir interpréter les signes des temps et à donner un message approprié pour préserver la dignité de l'homme, la paix, l'amour du prochain et le bien-être de tous. Mais ce que nous devons dire, pour qu'il y ait la paix, pour que les gens s'engagent, il faut toujours leur proposer une vision. La paix n'est pas simplement le statu quo, mais c'est une volition qui veut que dans le combat que nous menons pour notre bien-être dans le monde, nous ne perdions pas de vue notre boussole. Pour ma part, je pense que le Cameroun va arriver à un âge important, en 2025 par exemple, et là, ce sera une date qui va passer aussi. Mais après 2021, quel est notre futur? C'est ça le problème. Donc, nous disons aux Camerounais qui nous écoutent que la première préoccupation que moi je sens, c'est de leur dire, veillons à soigner la valeur humaine qui est en nous. Être des personnalités respectées et respectueuses, c'est très important. Il faut une base de dignité humaine pour construire une nation. Ça veut dire que chaque citoyen a une conscience de lui-même et une conscience des autres. La deuxième chose que j'ai dit, la réalité sociale est là. La caractéristique fondamentale, c'est la diversité. Nous devons continuer à persévérer que la diversité ne nous oppose pas, mais que dans la diversité, nous allions vers l'unité toujours. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes, mais c'est une dynamique positive qu'il faut animer chaque fois. Et là, je dis aux Camerounais, allons plus haut. Pourquoi est-ce que nous nommons nos concitoyens par les noms ethniques? On dit les Petits, les Bassa, les Bamileke. On ne fait pas l'effort d'aller au-delà de cette catégorie pour appeler chacun par son nom. Ailleurs, ce n'est pas tellement ces catégories ethniques, tribales qui prédominent. On connaît les gens par leur spécialité, par leur nom, par leur identité. C'est un problème parce que les catégorisations ethniques bloquent beaucoup de choses. Dès que quelqu'un devant vous dit « Oh, il est de l'Ouest », attention, tout de suite, on n'avance pas. Il faut donc que la détribalisation du langage, des relations, des comportements continue à s'accentuer, qu'on prenne la peine d'appeler comme Dieu le fait, il appelle chacun par son nom. Je pourrais dire d'autres choses importantes comme en politique. Pour ma part, la situation politique du Cameroun est évolutive. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une conscience politique au Cameroun. Elle est même très vive. Et vous n'allez qu'à lire les journaux.
Et justement, lorsqu'on lit ces journaux, Monseigneur l'Archevêque, c'est très souvent des clichés, des préjugés et même un discours à connotation haineuse.
Oui, parce que nous avons une mauvaise orientation pour dire, je dirais, on veut un député dans notre département. Je ne vais pas dire, je ne veux pas tel député. Donc, c'est une erreur d'élire celui qui ne doit pas être élu. Enfin, de valoriser le nom à élire et de renoncer à celui qui doit être élu. C'est un logiciel qui fonctionne très mal. Vous verrez dans les journaux que, ah, tel, non, surtout pas tel, surtout pas tel. Non, il faut proposer. Voilà pourquoi nous, comme Église, on a toujours dit, soyons dans la dynamique, j'allais dire, professionnelle. Il y a l'inscription aux listes électorales, il faut le faire. Le jour où il y aura vote, il faut y aller. Et comme ça, chacun fait son choix. Dans la diversité, faire campagne ne veut pas dire de condamner certains. C'est surtout proposer quelqu'un qui paraît à votre égard. Et aussi accepter la liberté des autres, qui est débat.
Vous restez dans la logique de l'Église, c'est-à-dire la promotion de la paix. C'est la même chose dans les régions aujourd'hui en proie à beaucoup de tensions, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest en l'occurrence, voire l'extrême Nord.
Oui, la paix va nous imposer des dynamiques d'action. Parce que dans l'extrême Nord, et ainsi que dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, beaucoup de choses ont été faites. On ne peut pas dire que rien n'a été fait, bien au contraire. Il y a encore des soubresauts ici et là, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile d'éteindre une guerre, encore moins des rébellions. Ça, c'est une dynamique très difficile. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à une paix totale? Je pense qu'il faut continuer le fameux projet de ce dialogue-là. Parce que derrière les armes, il y a des hommes. Mais qui sont ces hommes? Comment faire pour les rencontrer et permettre que la violence ne soit pas la voie de la solution, mais plutôt le débat devienne source de réconciliation? Le Cameroun a fait beaucoup dans la pacification, mais il y a encore des poches de résistance. Il va falloir continuer à accompagner les personnes pour que les nouvelles générations optent pour une paix durable.
Monseigneur Jean Barga, vous êtes donc optimiste, non seulement pour 2025, mais pour la suite.
Oui, je ne suis pas pessimiste habituellement. C'est ça que j'ai dit. Je ne veux pas non plus dire le statu quo, non. Je dis quelle est ma vision pour le Cameroun demain. Je dis que le Camerounais se découvre et découvre l'autre. Si on est dans cette posture, on va grandir. Regardez le pays. Cette jeunesse, est-ce qu'elle a besoin de troubles? Est-ce qu'elle a besoin de guerre? Elle a besoin d'avenir? Est-ce que nous devons leur proposer un pays ensanglanté qui brûle? Non, nous sommes, nous les aînés, en devoir de tout faire pour que cette jeunesse du Cameroun ait une nation où il fait bon vivre et où on progresse. Moi, je suis maintenant vers 70 ans. Ça fait quand même 40 ans que je suis prêtre. J'ai bénéficié d'un temps de paix. Je dois aussi faire tout pour que ceux qui viennent après moi aient ce temps de paix. C'est un devoir et une exigence qui s'impose à nous. Si nous proposons à nos jeunes un pays ensanglanté et désordonné, nous sommes responsables devant Dieu. L'optimisme, c'est la responsabilité.
Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, merci pour l'honneur que vous nous avez fait. Merci de rehausser cette tribune, la voix du palais, où vous avez été invité ce soir.
Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. Soyez-en sûrs, ici, dans la sud-diocèse de Yaoundé, nous nous efforcerons d'être auprès du peuple pour l'écouter, dialoguer, conseiller et prier pour que les cœurs s'ouvrent dans une fraternité national et universel.
Fin de cette édition de votre programme, La Voix du Palais, avec la coordination de Yves-Marc Mediou, préparation et présentation du Denis Oumba. Merci à toutes nos équipes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidèle écoute. Vous nous écouterez encore certainement dans 2 semaines. Merci.